Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le péronisme est de retour au pouvoir en Argentine. Le candidat de centre-gauche, Alberto Fernandez, remporte largement la présidentielle. Reportage à Buenos Aires dans un instant. Dans cette édition, nous entendrons aussi la réaction d'un représentant des victimes des attentats du 13 novembre. Réaction après la mort d'Aboubakar al-Baghdadi. Le chef du groupe État islamique a, selon les États-Unis, été tué hier en Syrie. Et puis nous irons en Allemagne où l'extrême droite remporte une nouvelle élection régionale dans l'Est du pays. Encore une, nous dira notre correspondant outre-Rhin. Changement de nom et de parti à la tête de l'Argentine. Le candidat péroniste de centre-gauche, Alberto Fernandez, remporte la présidentielle. Et il ne lui aura fallu pour cela qu'un seul tour. Avec sa colistière, l'ancienne présidente Cristina Kirchner, il devance le président sortant Mauricio Macri. Il comptabilise ce matin plus de 47% des voix. Alberto Fernandez, nouveau président de l'Argentine donc, et de ses 44 millions d'habitants. Ils étaient nombreux hier soir à crier leur joie, notamment au micro de Caroline Vic.
Au QG des péronistes, le nouveau président élu, Alberto Fernandez, remercie les Argentins avec émotion et passion. Dans la foule, Ezequiel, 31 ans, qui a retrouvé le sourire après 4 ans difficiles.
C'est du bonheur absolu que ce soit terminé le pire cauchemar qu'ait connu l'Argentine depuis les 40 dernières années. Parce que Macri a détruit le pays et sous-estimé le peuple. Et on le voit aujourd'hui, les gens marchaient tristes dans la rue. Et ce soir, c'est une fête et ce n'est que le début.
Plus loin, Alejandra, 51 ans, lève les deux doigts du V de la victoire, symbole du péronisme, pour saluer les voitures qui klaxonnent.
Nous devions laisser derrière nous ces 4 ans néfastes, où beaucoup de gens sont passés sous le seuil de pauvreté, où les enfants ne mangent pas à leur faim. On sait que ça va être dur de remonter la pente, mais on fait confiance à Alberto. Il va réussir.
Alberto Fernandez qui se réunira avec Mauricio Macri aujourd'hui afin d'organiser ensemble la transition politique et tenter de tranquilliser les marchés pour garantir une stabilité économique jusqu'au 10 décembre prochain, date de la passation du pouvoir.
Caroline Vic depuis Buenos Aires pour France Culture. Retour par ailleurs sur cette présidentielle en Argentine avec Julie Gacon et son invité dans les enjeux internationaux. C'est dans moins d'un quart d'heure. D'ici là, nous poursuivons ce journal et au lendemain de l'annonce de la mort du chef du groupe État islamique, l'OTAN salue une étape importante dans la lutte contre le terrorisme international. Aboubakar al-Baghdadi a été tué en Syrie. Le président américain Donald Trump s'en félicitait hier. Nous avons joint le vice-président de l'association Life for Paris, association de victimes des attentats du 13 novembre. Olivier Laplot réagit entre soulagement et retenue.
C'est une forme de soulagement hein, quand on parle de quelqu'un qui est à l'origine de nombreuses atrocités, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit un peu partout dans cette région et puis chez nous en Europe via un certain nombre d'attentats. Évidemment, c'est toujours une information à prendre un peu avec des pincettes. Hein. C'est quelqu'un qui est mort et ressuscité plusieurs fois. Ces dernières années, d'une certaine façon, de la même façon que Oussama Ben Laden était mort et ressuscité plusieurs fois. Voilà, donc c'est une information à prendre un peu avec des pincettes, d'après moi. Voilà, mais qui semble donc être confirmée aujourd'hui. Malheureusement, ça ne veut pas pour autant dire que Daesh est fini et qui sait ce qu'on peut être amené à craindre à l'avenir avec l'instabilité de la région du nord de la Syrie et d'éventuelles résurgences de Daesh.
C'était Olivier Laplot, vice-président de l'association Life for Paris, interrogé par Caroline Félix. Et effectivement, notons que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande déjà à ses services la plus grande attention, notamment pendant les événements publics à venir en France. Une vigilance accrue face à de possibles actes de vengeance. C'était la première élection en Italie depuis que Matteo Salvini a quitté le pouvoir et il l'a très largement remporté hier. Les quelques 700 000 électeurs de la région Ombrie, au nord de Rome, ont mis fin à 50 ans de règne de la gauche dans cette région. Ils ont plébiscité le parti de l'ancien ministre de l'Intérieur, chef de la Ligue d'extrême droite. L'extrême droite qui emporte également un scrutin en Allemagne lors d'une élection là aussi régionale. Les résultats se suivent et se ressemblent. En Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA au centre du pays, dans la région du Thuringe. Le parti AfD a recueilli hier près de 24% des suffrages, convainquant donc un électeur sur quatre. L'AfD y devient la deuxième force politique, Ludovic Piétenu.
Avec un candidat Björn Höcke au discours radical, populiste et provocateur, fasciné par le Troisième Reich, proche des islamophobes de Pegida, soutenu par la scène néo-nazie locale, le parti alternatif pour l'Allemagne signe un nouveau résultat record. Il gagne 13 points en 5 ans, la CDU d'Angela Merkel en perd presque 11. L'AfD devient la première force d'opposition avec 22 des 88 sièges de cette assemblée régionale. Dans cette région rurale, la seule des 16 régions d'Allemagne qui reste dirigée par la gauche, Die Linke, en tête à près de 30%, mais qui devra, si elle ne veut pas être minoritaire, former une coalition avec un allié supplémentaire, sans doute les libéraux, en plus des sociaux-démocrates et des Verts, avec qui elle gouvernait déjà. Scrutin après scrutin, les partis de gouvernement s'effondrent, l'AfD progresse, les voix s'éparpillent, et il faut désormais aux partis politiques constituer des coalitions acrobatiques à 3 ou 4 pour gouverner, s'ils veulent maintenir la digue dressée face à l'extrême droite.
C'était Ludovic Piétenu depuis Berlin. L'état d'urgence a été levé cette nuit dans toutes les régions du Chili, là où il avait été instauré un peu plus tôt. La présidence chilienne l'annonçait hier soir après des manifestations inédites depuis des décennies dans le pays. Cette révolte sociale dure depuis 10 jours et a déjà conduit un remaniement du gouvernement. Révolte sociale aussi au Liban depuis 12 jours maintenant. La mobilisation y a débuté après l'annonce d'une nouvelle taxe sur la messagerie gratuite WhatsApp. Les Libanais réclament la chute du gouvernement plus largement. Et hier, ils étaient encore dans les rues, Chloé Domain.
La colère des Libanais ne faiblit pas. Partout dans le pays, des manifestants de tous les âges, venus en famille ou entre amis, dénoncent la corruption et le clientélisme de la classe politique. Les promesses de réforme du Premier ministre et du Président de la République n'ont pas convaincu. Les menaces de Hassan Nasrallah, le chef du puissant parti chiite Hezbollah et de ses militants, non plus. Hier, la mobilisation était de nouveau très importante. Un geste symbolique a marqué cette journée. Les manifestants ont formé une chaîne de solidarité sur 165 km du nord au sud du pays. Dans une ambiance festive et sous un soleil tapant, ils étaient des dizaines de milliers de toutes les régions, chrétiens, musulmans chiites et sunnites, main dans la main contre le régime. Ce matin, les principaux axes routiers bloqués pendant plus d'une semaine par des barrages sont rouverts, mais à chaque barricade, le bras de fer entre les manifestants et l'armée se poursuit. Banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Beaucoup de magasins gardent le rideau baissé. Sur les réseaux sociaux, les appels à poursuivre la mobilisation se multiplient.
C'était Chloé Doma pour France Culture. Les représentants du Conseil français du culte musulman seront reçus ce matin par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a déjà prévu de leur parler du port du voile et de la laïcité. Avant ce rendez-vous à l'Élysée, Dalil Boubaker, président de la Grande Mosquée de Paris, estime, lui, que ce n'est pas le terrorisme et le foulard dont il faut parler. Arrêtons la stigmatisation, voilà ce qu'il déclarait hier soir avant son rendez-vous à l'Élysée. 8 Afghans, dont 4 mineurs, ont été retrouvés hier matin en légère hypothermie dans un camion frigorifique à Calais. Le véhicule faisait route vers le Royaume-Uni. Mercredi dernier, 39 personnes, là aussi des migrants d'origine chinoise cette fois, avaient été retrouvées mortes dans un engin du même type, un camion près de Londres. Les autopsies là sont toujours en cours. Et puis notez que la SNCF promet le remboursement de tous les billets concernés. Dans l'Ouest, ce lundi, le trafic ferroviaire sera grandement perturbé par une grève. Grève qui dure depuis une semaine maintenant, mais qui aura un impact non négligeable aujourd'hui lundi. Un TGV sur 3 seulement vont circuler sur l'axe Atlantique. C'est une grève des agents de maintenance dans la banlieue parisienne. Sudrail, qui appelle à cette grève, évoque une remise en cause des conditions de travail par la direction sans avoir concerté les syndicats avant ces remises en cause. Le ciel s'annonce nuageux ce lundi sur le tiers nord du sud de la France. Ailleurs, ce sera gris et humide. Météo France annonce pour aujourd'hui 9 degrés à Brest et à Besançon, 10 degrés à Lille, à Paris et à Strasbourg, 15 degrés à Lyon. Comptez 16 degrés dans la matinée à Bordeaux, 18 à Bayonne et sur la Corse, entre 11 et 21 degrés cet après-midi avec des pluies toujours qui vont balayer le pays du nord-ouest jusqu'au sud-est de la matinée jusqu'à ce soir.